Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour débuter ce journal, nous resterons évidemment à Jérusalem. Actualité forte en ce 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Un jeune État, aussi dynamique que déchiré idéologiquement, vous le comprendrez. Nous reviendrons notamment sur la diffusion récente d'un documentaire. Il explique comment les séfarades ont été exploités dès les années 50 par les Ashkénazes pour peupler le territoire. Des preuves qui ont choqué le pays. L'État d'Israël entre menaces et tensions, c'est une page spéciale que nous ouvrons donc ce matin dans le journal de France Culture. Et puis, nous balayerons l'actualité depuis Paris avec Sophie Delpont. Bonjour.
Bonjour Clara, bonjour, bonjour à tous. Madame.
Sophie, vous évoquerez l'université de Tolbiac.
Oui, les CRS ont évacué le site tôt ce matin. La contestation sociale et les méthodes du gouvernement, ce sera l'objet du billet écho d'Annabelle Grelier à 7h12. Et puis, dans ce journal également, la colère de l'opposition sur les conditions du vote de la loi Asile et Immigration.
Merci Sophie, à tout à l'heure.
Le journal de France Culture, en direct de Jérusalem.
Des drapeaux blancs et bleus accrochés par dizaines aux fenêtres des maisons, sur les toits des voitures, aux moindres lampadaires, des feux d'artifice, des pique-niques en famille, du monde, beaucoup de monde dans les rues, des concerts également et des invités, tous israéliens. L'État d'Israël fête donc sa création. C'était il y a 70 ans tout juste, après la guerre civile, après le vote par l'ONU du plan de partage de la Palestine. Et nous sommes à cette occasion à Jérusalem ce matin aux côtés d'Étienne Monin, notre correspondant dans la région. Bonjour Étienne.
Bonjour.
70 ans après sa création, Israël reste un pays d'excès, Étienne, avec une vitalité incroyable et dans le même temps, une difficulté à trouver son identité propre.
Oui, Israël, c'est à la fois une formidable réussite et un inépuisable terrain de critique sur le plan des valeurs en 70 ans. Ce pays est passé du socialisme au libéralisme avec de grands succès. Les inégalités sont fortes, mais il n'y a presque plus de chômage. La croissance est soutenue, les réserves en gaz sont prometteuses. Mais ce pays est polarisé. Israël est dirigé depuis 3 ans par la coalition la plus à droite de son histoire. L'idéologie des colons a fortement progressé. L'extrême droite pèse sensiblement sur les décisions malgré une représentation politique limitée. La place et l'influence de la religion est également une source de conflit. Enfin, cet anniversaire est placé sous un signe, celui des menaces et des tensions. L'Iran est la préoccupation principale. Gaza est une source de tensions. Le Hamas alimente la marche du retour. Elle se prête et se répète tous les vendredis, un peu comme un compte à rebours avant le très sensible déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem.
Voilà pour un premier état des lieux, une identité flottante, on l'a compris, autour de communautés. Israël s'est d'ailleurs construite autour des communautés dès le début, dans les années 50. Preuve en est, un documentaire a dévoilé ces derniers mois la politique de discrimination qui a été mise sur pied par les autorités contre les premiers migrants juifs du Maroc. Ils ont été exploités pour développer, pour peupler des communautés dans le sud désertique du pays. Avec ce documentaire, le réalisateur israélien David Derry a été primé. Vous lui avez parlé, Étienne. Son travail intitulé « Le péché ancestral » a donné lieu à une série qui a été diffusée à la télévision. Série qui a choqué le pays.
Le choc est d'autant plus fort qu'en Israël, depuis plusieurs années, le pays se réapproprie la culture séfarade d'Afrique du Nord avec la voix, par exemple, de Zev Ezekiel. Mais bien avant, les premiers juifs venus du Maroc subissent la discrimination d'une nation dirigée par les Ashkénazes venus d'Europe de l'Est. C'est l'histoire familiale du réalisateur David Derry. Ses parents ont été envoyés dans une ville du désert du Negev pour servir les intérêts du pays qui a nié pendant des décennies la réalité de ce racisme et de cette discrimination.
C'était comme dire à tous ces gens, circulez, il n'y a rien à voir, avançons, parce qu'on a construit un pays. La plupart des gens maintenant réalisent que les faits leur apportent une autre version. Et c'est l'histoire d'une discrimination systématique et institutionnelle.
Après la diffusion à la télévision de cette histoire, la ministre de la Justice a annoncé qu'elle voulait ouvrir les archives pour révéler la politique de l'agence juive qui a démarché à l'époque ces juifs du Maroc. Mais d'après David Derry, la plupart des documents sont déjà connus. Ce qu'il manque, c'est l'intégration dans les livres livre d'école de la part séfarade.
Il y a toute une part importante sur le projet sioniste, mais il n'y a rien sur notre histoire. Il y a trop de gens ici en Israël qui ne sont pas considérés comme des acteurs dans la création du pays. C'est une façon d'envoyer un message très négatif sur notre identité et sur notre place dans cette société, notre pays, dans ce pays.
Et cette histoire arrive au moment où les élites en Israël se sont rééquilibrées, notamment au profit des séfarades.
Les élites, justement, Étienne, et la politique. Depuis 3 ans, Israël est gouverné par une coalition qui intègre le parti ultranationaliste, Avigdor Lieberman, et le parti d'extrême droite, des colons sionistes, religieux. Vous le disiez, Étienne, c'est la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël.
Et c'est notamment un poids supplémentaire dans la lutte qui oppose les partisans de l'État-nation et les partisans de l'État juif. C'est un débat profond. Moshe Feiglin défend avant tout le caractère juif d'Israël. Il est pour l'annexion de la Cisjordanie, il a quitté le Likoud, mais il est considéré comme un des idéologues radicaux du parti dominant.
Depuis la création de l'État d'Israël, dès le tout début du sionisme, il y a eu deux caractères qui sont entrés en contradiction dans la société israélienne. Je dirais, c'est le caractère israélien et le caractère juif. Et ça n'est pas la même chose. Le caractère israélien cherche à créer une identité nouvelle. Derrière, on trouve ces intellectuels qui cherchent, et ils l'ont admis, à gommer l'identité juive pour la remplacer par l'identité israélienne. On pourrait appeler cela la guerre entre le concept de l'État avec ses citoyens et le concept de l'État juif. Dans les années 80 et le début des années 90, avec le processus d'Oslo, avec l'aide incroyable de la Cour suprême et des médias, le concept de l'État pour les citoyens a gagné. Mais la majorité des Israéliens se voit avant tout comme juifs, ensuite comme israéliens. Et mon parti, le Zehut Party, soutient totalement l'idée qu'Israël est avant tout et plus que tout un État juif.
L'État d'Israël qui fait face aussi à la volonté de ses voisins de créer un État palestinien avec tous les enjeux que cela pose. Jérusalem, où nous sommes ce matin en est un. Nous continuerons de balayer tous ces sujets dans une dizaine de minutes avec notre premier invité, Abdel Fattah Abousrour, enseignant, écrivain, fondateur d'un centre culturel dans un camp de réfugiés palestiniens. Mais avant cela, l'actualité du jour, elle est aussi ailleurs dans le monde. Et il est 7h07 sur France Culture. Nous repartons à Paris pour la suite du journal avec Sophie Delpont. En France, Sophie, le débat sur le projet de loi Asile et Immigration focalise les tensions dans l'hémicycle.
Oui, l'examen du texte avance très lentement sur cette proposition emblématique présentée comme fondamentale tant par l'exécutif que par l'opposition. Hier soir, il restait encore plus de 800 amendements et plusieurs dizaines d'articles à examiner, rendant le délai prévu initialement impossible à tenir. Le président de l'Assemblée nationale propose de prolonger les débats à demain, voire jusqu'à dimanche si besoin. L'opposition à droite et à gauche dénonce une manière d'entraver le débat démocratique, Estelle Schmitt.
Un peu plus de temps, mais pas assez, selon la France Insoumise et pour la députée Danielle Obono, placer l'examen de ce texte juste avant 2 semaines de suspension est une stratégie pour réduire la durée des discussions.
Le gouvernement a choisi de faire intervenir l'examen d'un texte aussi important dans une semaine où par ailleurs ont été mis à l'ordre du jour 3 autres débats, en sachant pertinemment que nous n'aurions pas les moyens de tenir les débats dans de bonnes conditions.
Un vote le week-end, peut-être tard dans la nuit, Marine Le Pen, présidente du FN, y voit une volonté de limiter le nombre de députés présents.
Il y a un certain nombre de personnes qui ont prévu des départs avec leurs enfants, qui ont des choses prévues en circonscription. Et donc, on cherche là à empêcher les parlementaires d'être là.
Pour le député Les Républicains Éric Ciotti, la majorité veut un vote en catimini pour masquer ces divisions.
D'une fissure, on est passé à une fracture dans la majorité. Il y a une aile réaliste et puis il y a une aile qui reprend des postures des socialistes, voire de l'extrême gauche.
Le patron des députés La République En Marche, Richard Ferrand, lui accuse l'opposition d'avoir ralenti le débat.
Faudra voir si les incontinents du verbe qui ont inutilement prolongé certains débats seront là pour voter, pour vous parler et se plaindre du fait que l'heure du vote ne leur convient pas.
Des députés qui, pour beaucoup, espèrent désormais boucler les débats demain pour ne pas jouer les prolongations dimanche.
Estelle Schmitt, dans la rue, près de 120 000 personnes ont défilé hier contre la réforme de la SNCF et pour appeler à une convergence des luttes face à Emmanuel Macron, à l'appel notamment de la CGT et de Solidaires réunis en intersyndicale. Ils ont demandé à Édouard Philippe de négocier directement avec eux. Le chef du gouvernement leur a opposé une fin de non-recevoir. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de réforme de la justice avec parmi les nouveautés, instaurer à titre expérimental la création de tribunaux criminels départementaux qui concerneraient les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion criminelle avec l'objectif affiché de réduire les délais de jugement, la France ayant été condamnée à plusieurs reprises pour non-respect d'un délai raisonnable. Ces tribunaux seraient composés de magistrats professionnels et non plus de jurés populaires comme dans les cours d'assises. Et c'est l'une des grandes inquiétudes de Denis Salas, magistrat et directeur de la revue Les Cahiers de la Justice.
J'ai une crainte majeure, c'est la disparition de l'oralité des débats, dont on sait l'importance qu'elle a eue dans les grandes affaires françaises que nous avons connues, je pense à l'affaire d'Outreau, mais il y en a beaucoup d'autres, révélant la vérité d'une affaire très très souvent à l'audience. Il est prévu une oralité limitée, et les magistrats auront accès au dossier avant l'audience, donc pourquoi interroger des témoins, des experts ? Donc c'est une première inquiétude. La seconde inquiétude que j'ai porte sur, je ne dis pas la disparition, en tout cas l'érosion du jury dans notre procédure pénale. Si cette réforme est appliquée pour un nombre très important d'affaires, en tout cas c'est une inquiétude très forte. Et les études que je mène depuis un certain nombre d'années sur le jury montrent qu'il y a, si vous voulez, dans le jury, une profonde expérience démocratique que les citoyens ne font pas ailleurs. Et ils en sont pleinement satisfaits. Ils comprennent mieux le sens de l'acte de juger grâce à cette expérience, en quelque sorte, sur le terrain. C'est aussi, pour la justice, un ancrage démocratique dont on aurait tort de se priver parce que il est essentiel pour une justice qui est précisément en manque de légitimité démocratique. Les juges ne sont pas élus, mais ils ont les jurés qui, eux, sont l'émanation du peuple. Et pour une justice énoncée au nom du peuple français, ce serait quand même un paradoxe étrange de voir disparaître progressivement, c'est la crainte que j'ai, la figure du jury dans notre procédure pénale.
Un propos accueilli par Florence Turm, une interview à retrouver en longueur dans un dossier complet consacré à l'évolution de la cour d'assises en France, dossier sur franceculture.fr. À Cuba, l'accession à la présidence hier de Miguel Díaz-Canel, ancien numéro 2 du régime, âgé de 58 ans, en remplacement de Raúl Castro, est illégitime, selon le secrétaire général de l'Organisation des États américains, qualifiant le régime cubain de dictature. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture.